C'est 23.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Voici Mario Langlois.
Marc-Antoine Decoy qui est là. Bonsoir, Marc-Antoine.
Bonsoir, Mario.
Ça ressemble à quoi le film d'émotion que tu as vécu depuis hier?
Écoute, c'est hallucinant. Je pense que une bonne partie du Québec a vu mes émotions. c'est quelque chose qui est difficile à contrôler, ça part de toi. T'sais, je l'ai déjà expliqué, mais le fait de revivre mon rêve, le fait de penser à ça depuis que je suis jeune, de soulever cette coupe-là, puis avec le faire avec les Alouettes de Montréal, pour moi, c'est un rêve de la réalité, puis j'ai de la misère honnêtement à y croire. C'est comme je suis encore dans un film, il faut que je me peigne, c'est tellement surréel. Que c'est un... Puis en plus, avec du manque de sommeil puis un peu hangover, c'est incroyable.
J'imagine. Comment as-tu vécu l'après-match? Comment vous avez vécu l'après-match jusqu'à l'envolée dans l'avion, jusqu'à la sortie de l'avion également? Là? C'est-tu, avez-vous dormi ou c'est vraiment la fête? Là?
Ah non, c'était la fête. Si tu penses à ça, là, c'est pas comment... C'est pas quoi faire. Tu gagnes, t'es sur le terrain... T'as tout le monde qui vient te parler, tu veux célébrer avec ta famille, tu veux célébrer avec tes amis, t'as les médias qui posent des questions, là tu vois que sur le stage commence à donner le trophée, c'est tellement chaotique, mais c'est du beau chaos, c'est tellement juste du bonheur. Fait que pour moi c'était tellement, écoute, tu sais pas qu'est-ce qui se passe, tu fais juste suivre, on dirait, la vague. Après ça, dans le vestiaire, j'ai des vidéos que j'ai vues, des fêtes dans le vestiaire, puis vivre avec le champagne, les lunettes, les cigares, la coupe, boire dedans. Je pense que n'importe quel sportif rêve de boire dans une coupe. C'est quand t'es joueur de hockey ou joueur de football, de boire dans la coupe et de le faire, c'était incroyable. Puis oui, le party était pas.
Et il se poursuit, j'imagine, ce soir, Marc-Antoine. Je veux revenir au match parce que c'est une victoire sur le terrain qui permet toutes ces célébrations, qui permet des débordements d'émotions. Quelle partie du jeu ou quel jeu en particulier t'as vraiment comme impressionné et qui, selon toi, nous permet de parler des champions de la Coupe Grey, les Alouettes de Montréal, ce soir?
Écoute, je vais te dire, c'est Cody Fajardo. Il y a tellement de doutes envers notre carrière cette année, des fois avec raison, et de livrer le plus gros match de selon sa carrière dans la plus grosse scène, c'est quelque chose qui est hallucinant. Il a joué, et aussi avec Jason Moss et Carvio qui ont carré un très bon match aussi. C'était comme le parfait moment que tout mis ensemble. Puis pour moi, c'était quand il restait une minute. Puis il s'est fait saquer, puis il a fait sa course de 13 verges. Puis il est descendu le casque, il a reçu un genou, un casque dans le genou pour être 3e et 5. Douleur au genou, puis il recule la pochette pour lancer cette passe-là à cause piqueux. Si la passe n'était pas attrapée, la game se termine là. C'est la fin, c'était
3e et 5. Ben c'est sûr. Écoute, je raconte en introduction d'émission ce soir que j'étais en train de dire à mes visites, hey, on a eu un bon match avec, tu sais, avant ces derniers jeux-là. Là. J'étais déjà content, mais c'est comme si je le voyais pas venir, je l'espérais, mais je me disais, tu sais, ça marchera pas. T'avais-tu un petit peu de ce feeling-là?
Ben non, on était sur le terrain puis on y croyait, là. C'était quoi à la fin, là. Et je me suis mis à prier à la fin, là. C'est comme si les prières allaient faire vraiment de quoi, mais tu trouves, c'est honnêtement, on y croyait tellement. Le momentum qu'on a eu dans les dernières semaines, c'est notre 8e victoire de suite qu'on vient d'avoir avec la Coupe Grey. Puis c'est la 8e Coupe Grey que les Alouettes de Montréal ont gagné. Puis il y avait quelque chose qui s'alignait ensemble. T'avais une énergie. Puis après la victoire contre Toronto, on le sentait, puis même à la mi-temps, là, hey, on était à la ligne des buts, puis on n'a pas scoré. Puis dans le vestiaire, c'était même pas un sentiment de défaite. Puis ça, là, ça veut dire le caractère de cette équipe-là. T'sais, des fois, tu peux revenir, surtout c'est un gros jeu, ça aurait changé là, avec le toucher, mais non, les joueurs ont resté calmes, les joueurs ont resté positifs, ça s'est encouragé. Tu sentais tellement cette énergie-là dans l'équipe, puis c'était pour moi hallucinant.
Quand tu dis que tu as prié, c'est quand même profond. Là. Ça veut dire que peu importe, tu refuses d'abandonner. Tu témoignes, as-tu eu une pensée? Puis c'était un très beau papier la semaine passée. Je m'en rappelais pas la semaine passée dans les entrevues. Tu sais que tu avais perdu ta mère il n'y a pas longtemps. As-tu eu une pensée pour elle?
Ah ben oui. En fait, quand j'ai prié, j'ai prié pour elle. J'ai dit, non, si tu regardes le match, fais quelque chose, s'il te plaît. Aide-nous à gagner ça. Mais c'est vraiment un moment de... faut comprendre. Je souhaite au monde de vivre ça, là, mais c'est le stress, tout le cumulatif d'une saison qui se décide sur une minute, sur un jeu, sur quelques derniers jeux. C'est pas à ton contrôle. Puis honnêtement, on va dire cette game-là, c'est l'offensive. On disait avant que la défensive était la force. C'est l'offensive qui a complètement mené cette équipe-là à la victoire. Puis comme j'ai dit, ils ont show up, ils ont step up au meilleur moment possible.
J'ai demandé, ça a été, t'as tellement raison. Moi aussi, c'est peut-être pour ça que je m'y attendais pas tant que ça, cette dernière poussée réussie. Là.
Ben c'est ça, puis je veux dire, c'est comprenable si tu regardes la saison qu'on a eue, qu'il y avait ces doutes-là. Nous, à l'interne, on n'avait pas parce que on la voyait. C'est des pratiques, c'est pas la même chose que bien, mais on avait de la misère défensivement, puis des fois, on voyait qu'il y avait quelque chose. Puis des fois, je sais pas, je suis pas au sein de l'offensive, fait que je sais pas c'est quoi exactement qu'est-ce qui manquait, mais tu voyais qu'il y avait ce potentiel-là, puis je pense que c'est juste sous la pression, l'équipe a tellement fait pas, puis c'est pour ça que tu sais, on a toujours été sous-estimé parce qu'ils disaient on n'avait pas d'offensive, oh, faut que la défensive joue bien ou. Fait que tu sais, c'est toujours été, puis ce feu-là, là, ça a tellement enflammé Cody Fajardo. Puis il y a une quote qui est sortie de Seattle parce qu'il a fait un speech, dans le fond, la veille de la game, le coach Jason Moss, parce que c'était notre dernière journée 4, tout le monde ensemble. Après ça, c'était la game. Il dit tous ceux qui veulent parler, tous ceux qui ont une expérience de Cody, venez partager. Puis Cody a donné un speech là que j'en ai encore des frissons. Puis tu sais, je peux pas le dire parce qu'il y a du sac puis ça m'arrive, mais c'était quelque chose que tu vois son pensée, puis t'es comme qui voulait pas croire en moi, vous voulez pas croire. Tu sais, j'essaie de rendre justice, mais c'était vraiment face au fait que il se faisait mettre de dernier qui disait ah, si tu peux pas être un carrière gagnant, tu peux être 0 et 8 contre Colorado. Puis c'est venu réveiller quelque chose en lui qui était hallucinant à ce match-là.
Et c'est ça que j'allais vous demander, qu'est-ce qui vous a rassemblé? Tu sais, c'est quoi l'élément qui a rassemblé ce club-là?
Tu te rappelles-tu en début d'année quand je t'expliquais avec Jason Moss, puis je disais comment qu'il intégrait le français, comment qu'il intégrait la culture, comment qu'il intégrait tout le monde ensemble. Mais moi, je pense que c'est ça. Moi, je pense que c'est cet effort-là de notre head coach qui nous a... Puis c'est juste de rassembler les joueurs ensemble, qui est d'embrasser la culture québécoise. Puis moi, je vais te dire, je suis convaincu que c'est ça qui a permis, parce que ce vestiaire-là était uni, puis on en parlait. Puis je disais, j'ai le sentiment que tu sais, les équipes qui sont gagnantes tout le temps, ils ont quelque chose, c'est un vestiaire uni, puis je sentais que je l'avais, mais t'as des vestiaires unis qui gagnent pas, mais nous, je trouve qu'il y avait cette chimie-là, il y avait cette proximité-là entre les joueurs, que c'était quelque chose que j'avais jamais vécu auparavant à Montréal. Je pense que c'est une des raisons pour cette recette de victoire.
Il y a Alain qui nous écrit, j'invite les gens à poser des questions pendant qu'on discute, puis je vais discuter avec des coéquipiers, des entraîneurs. Il dit, tu sais que mon père est décédé l'an passé, et j'ai demandé au quatrième quart, mon père, de les aider un peu, moi aussi, pour prier en même temps que lui. Fait que j'ai peut-être prié en même temps que lui. Comme quoi, c'est spécial ce feeling-là, que tout d'un coup, tu sais, c'était pas facile d'amener du monde au stade depuis des années, etc. Puis là, tous les astres s'alignent, l'espace de quelques semaines, vous êtes champion de la Coupe Grey. Bon, je vais y arriver quand même, parce qu'on peut pas en parler. Évidemment, tes propos, ton envolée oratoire à la fin du match, les émotions qui t'habitaient, c'était quelque chose d'exceptionnel. Clairement, tout le monde en a parlé. Je voulais savoir, t'étais-tu conscient de ce que t'avais généré avant de sortir de l'avion ce matin? T'étais-tu conscient que, en l'ayant dit, que ça venait de faire boum?
Ben, pas tout à fait. Je veux dire, j'étais assez surpris. Je pense que qu'est-ce que moi j'ai été déçu, c'est que ça a viré politique. Puis tu sais aussi bien que moi, dans le sport, il n'y a pas de politique. Tu sais, le sport, c'est pas fait pour être une plateforme politique. Fait que moi, c'est plus ce côté-là que je trouve qui était un peu dommage. Parce que qu'est-ce que je voulais dire en fait? Puis je l'ai expliqué un matin en sortant de l'avion. Moi, c'était juste je trouvais que c'était juste un peu le manque de respect. Le fait que c'est une ligne bilingue, puis il n'y avait pas de français. Donc, tu sais, disons, c'est à Montréal, par exemple, la Coupe est à Montréal, puis tout est en français, bien, c'est la même chose, ce serait un manque de respect en anglais. Mais là, tu combines ça avec l'émotion de la victoire, puis d'une vie d'attente de ça. Je veux dire, c'est sûr qu'il y aurait pu avoir un peu plus de tact, mais tu sais, ça allait sortir comme ça, puis c'est qui je suis, mais ça n'a jamais été contre les comme on dit, la communauté anglophone, là, ça n'a jamais été ça. Là, c'était vraiment plus, c'est juste, il y avait quelqu'un qui a mal organisé ça.
Est-ce que tu as eu, mettons, la bénédiction de ton père ou de tes amis proches? Question, toi, t'étais-tu à l'aise avec ça? Parce qu'il y en a beaucoup qui ont adoré ça aussi, là. Tu sais, tu sais que tu voulais pas attaquer personne. Je pense qu'on a compris le sens de ton propos. Je pense que tout le monde l'a compris. Est-ce que tu as dû t'expliquer à des coéquipiers, par exemple, ou c'était quand même...
Écoute, mais moi, c'est pour ça que ça me fait ça, parce que tous mes coéquipiers américains, anglophones, ils ont tout cru de ça. Puis, l'affaire que je comprends, c'est que le monde, quand il voit ce clip-là, ils ne connaissent pas. Fait que c'est normal quand tu vois ça, c'est la première vision, mais mes coéquipiers me connaissent. Ils savent qui je suis, ça n'a aucune malice, c'est là que je les adore, puis j'aime tout le monde. Moi, c'est un fier québécois, je suis un fier canadien. Je suis vraiment quelqu'un qui joie de vivre. Fait que, t'sais, eux autres, ça n'a jamais été une question. Personne n'a jamais douté. C'est juste, je comprends que si tu me connais pas et tu vois ce clip-là, c'est un peu intense, mais gars, faut que t'en rire, là. Qu'est-ce que tu veux faire de...
Mais je comprends aussi, puis c'est peut-être ça aussi, c'est que si ça a sorti de même, c'est que, contrairement peut-être qu'on se pourrait percevoir au-delà de la victoire, tu avais une certaine frustration d'accumuler sur le non-respect du français. Ça, c'était véritable.
Ouais, c'est ça. Ben, quand moi, c'est durant la semaine, tu sais, ça avait commencé. Tu sais, la CFL, là, respecte super bien le français. Même en ce moment, j'ai gagné le joueur canadien par excellence de la DOS, puis j'ai une plaque. J'ai ma plaque, c'est QLCF en français. Tu sais, ils respectent super bien quand tu vas dans les autres provinces pour jouer l'hymne nationale et bilingue. Tu sais, ça n'a jamais été un problème. C'est juste que quand tu arrives dans les séries natoires, puis là, de cette narrative-là qu'il ne nous donne aucune chance, on va perdre contre Hamilton, on gagne, on arrive contre Toronto, il ne donne aucune chance, toutes les médias disent qu'on va perdre, t'arrives, l'hymne national est seulement en anglais, après ça t'arrives à Hamilton, tout le monde dit qu'on va perdre, t'as aucun logo, tu sais, c'est juste, c'est cumulatif, puis c'était juste, moi, je l'ai expliqué à l'antichambre, puis je dis, tu sais, en tant qu'athlète professionnel, tu utilises, dans le fond, ça comme des munitions pour alimenter ton feu, puis t'essaies de trouver le. Je pense que c'est le monde qui a écouté de l'Asie avec la série de Michael Jordan. Il inventait des fois des discours que les gars disaient pour se motiver pour une game. Fait que, en tant qu'arrêt professionnel, des fois, on se motive. Puis moi, j'utilisais ça un peu comme un feu. Je disais, OK, vous ne voulez pas nous prendre au sérieux. Vous ne croyez pas en nous. Mais c'est quoi? On va vous montrer. Puis c'est après la game, là, ça l'a sorti. Ça l'a sorti comme ça.
Au réseau Cogeco. Vous écoutez les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
Les Alouettes sont champions de la Ligue canadienne de football. Toute une victoire, toute une fin de match. On n'en revient pas encore. Luc Brodeur-Jourdain, semble-t-il, au sens figuré, j'espère, frôler l'infarctus. Bonsoir, Luc.
Bonsoir.
Dis-moi comment t'as vécu la fin de match. Raconte-moi ça.
Écoute, à la fin du match, tu sais, on dirait j'ai pris le temps, j'ai regardé le ciel, là, j'ai regardé les joueurs s'en aller sur le terrain célébrer. Puis on dirait j'étais juste posé et calme. Puis on dirait c'était encore dans mon rôle d'entraîneur. Je sais pas comment le définir autrement, mais dans mon rôle d'entraîneur, j'ai regardé les choses se dérouler devant moi, se dévoiler devant moi. Puis à la minute où est-ce que j'ai mis le pied sur le terrain, on dirait que je suis tombé en mode joueur.
T'es sérieux? Ah oui?
Ça a couru, là, c'est câlin, pis tout, puis je crie comme un fou, puis je crie comme un fou. Puis c'est ça, à un moment donné, je me suis fait, oups, là, j'étais peut-être un petit peu trop crié, j'ai fait, hey, là, faut que je me ralentisse, j'ai manqué d'air, ou je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais fallu que je reprenne mes moyens, mais écoute, l'euphorie, ça a été de l'euphorie instantanée, à partir du moment où j'ai foulé le terrain. Ça m'a permis de revivre des émotions que ça faisait tellement longtemps que j'avais pas vécu. Puis c'est un moment magique qui va rester gravé à tout longtemps, à tout jamais en fait en moi.
Est-ce que ça fait du bien?
Ça fait un énorme bien. C'est comme c'est un sentiment d'accomplissement, de travail. Les saisons sont longues et sont plus longues qu'elles l'étaient lorsque j'étais joueur. En raison des semaines de congés maintenant qui sont additionnelles durant la saison, également, tu sais, le début du camp d'entraînement. Puis pour les entraîneurs, évidemment, le travail se fait également durant la saison morte. Fait que c'est beaucoup plus, si on veut, de travail moins physique, bien évidemment. Mais c'est un travail gigantesque qui est accompli pendant de nombreux mois pour en arriver à une finalité de quoi? Ben c'est d'arriver à la vision qui a été mise en place en début d'année avec les joueurs. C'est de garder les yeux sur l'objectif et puis de croire nos moyens. Puis les moyens, c'est quoi? C'est de travailler sur une base quotidienne, c'est de faire toujours le petit effort, s'améliorer un petit peu tous les jours pour que lorsque tu arrives à cet événement-là, ben t'es en mesure de performer. T'es en mesure de marquer des points, t'es en mesure de créer des revirements. Ça a été tout un match. Tout un match dans l'histoire, je pense, de la Canadienne hier qui a été disputé.
Ah, t'as raison. Écoute, sérieux, là, j'en reviens pas encore. J'y croyais parce que je voulais y croire, mais j'y croyais pas. Honnêtement, j'étais dit wow, les gars sont battus. Je dis ça, il reste une minute à faire. Hey, on a eu une méchante game. Puis là, évidemment, tu connais la suite, mais tu sais, Luc, pour vrai, je te remercie d'avoir été au front pendant tout ce temps-là. T'étais pas juste au front quand t'étais un joueur, mais tu sais, les 13 années, je dirais pas que c'était toutes des années de misère. Il y a eu quand même quelques rayons de soleil ici et là. Mais hier, que tu laisses un peu aller ces émotions-là, parce que, tu sais, être coach, c'est devenir en contrôle, c'est d'être un mentor pour les jeunes, pour les joueurs, etc. Fait que de vivre des émotions qui nous permettent aussi de laisser aller ça, parce qu'il y a eu des bouts entre toi et moi, puis t'as jamais fait faux bond à l'organisation, t'as pas dû trouver ça ben drôle, ça, par moment, là.
Ben non, c'est sûr, il y a eu des hauts puis des bas, puis... au travers de ça, ben ça a été une expérience de vie, puis ça reflète quand même la vie en général de quiconque, dans tout le monde dans son parcours particulier va vivre des hauts des bas au travers de sa vie, puis au sein de l'organisation des Alouettes de Montréal, ben c'est ce que j'ai vécu moi personnellement au travers de mon cheminement. J'ai été repêché dans une grande vague de succès. Et puis on vivait des années euphoriques, bucoliques, c'était des années exceptionnelles, mais par la suite, c'est sûr qu'il y a eu des années un peu plus difficiles, mais à partir de depuis 2019, il y a eu encore un peu de rocambolesque autour de l'organisation. On voyait un portrait qui nous permettait de déterminer, bon, ben il y a quelque chose de bien qui s'en vient. On avait un retour dans les séries éliminatoires. Ensuite, ça a été un premier match de séminatoire. Ensuite, ça a été la finale de l'Est l'année dernière. Et là, cette année, ben, c'était ça qui était particulier. Les Alouettes sont finalistes notre équipe est finaliste de la division de l'Est. Et on nous met, au début de la saison comme étant les bons derniers de la Ligue cette année. Je regardais ça. Je comprenais qu'on avait perdu quelques joueurs, mais, je me disais, on a encore le même noyau. On a quand même un bon noyau. Et puis, il restait en soi quand même de trouver des alternatives aux joueurs qui avaient quitté. Et d'avoir l'arrivée de Cody Fajardo avec les Alouettes de Montréal, Austin Mack, Tyler Snead, l'émergence du jeune Phil Pott également. Défensivement, je pourrais mentionner toute la défensive au complet avec l'émergence de tous les joueurs. En fait, on a eu une défensive exceptionnelle, les unités spéciales qui ont performé tout au long de la saison. Donc, on avait une équipe de championnat.
Wow, vous autres, vous aviez ce sentiment-là, puis les gars nous l'ont dit à l'antenne, il s'agissait de le prouver, mais là, c'est-tu quoi? Vous l'avez prouvé, tabarouette, honnêtement, là, c'est vraiment super, et j'espère que vous allez vivre une belle semaine. Tu sais, c'est drôle, ça me faisait rire. Austin Mack savait même pas c'était quoi Coupe Grey il y a un an, puis hier, m'a dit une affaire, il avait l'air à trouver ça le fun, hein?
Ah oui, il a trouvé ça le fun, puis même quand dans ses propos d'après-match, j'ai trouvé ça bien qu'il mentionne également qu'il était informé par rapport au passé de ses coéquipiers. Il parlait d'un Christian Matte, évidemment, qui avait vécu la Coupe Grey de 2010, mais qu'il l'avait vécu à titre de joueur réserviste. Il avait parlé de Cody Fajardo également dans son entrevue qui avait pris la porte ainsi que Jason Moss avec les Rough Riders de Saskatchewan comme étant les boucs émissaires, si on veut, des insuccès des Rough Riders l'année dernière. Donc il était au courant de ce qui s'était passé dans la ligue une fois son arrivée. Tu sais, c'est une chose d'arriver et jouer dans une ligue, mais d'arriver puis d'informer un peu.
C'est intégré.
Exactement, de t'intégrer, de t'associer, de t'imprégner, si on veut, de l'expérience des joueurs autour de toi. Puis je ne sais pas si tu l'as déjà remarqué, Austin Mack, durant toute la saison, tout au long de la saison, il imprimait des t-shirts différents toutes les semaines de joueurs importants de l'organisation. Il se présentait à un match, il portait un chandail de DJ Green. Il arrivait à un autre match, Jamel Richardson. Une autre journée, c'était Anthony Calvillo.
Non, ça m'a échappé, ça. Ça m'a échappé. Merci de nous le raconter.
Austin Mack, en fait, a imprimé des chandails de joueurs importants de l'organisation tout au long de la saison, puis il portait ça ses journées de match. Puis c'est lui qui choisissait, il faisait imprimer lui-même.
Ouais, c'est du bonbon, Luc. Ouais. Hey, écoute, ça vaut de la soirée. Et puis, j'espère qu'on va se revoir cette semaine, peut-être en personne, mais bonne célébration, on se reparlera de l'avenir un autre tantôt.
Hey, merci beaucoup.
Merci, Luc. Bye-bye.
Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
Danny Mathiocha qui est avec nous ce soir. Bonsoir, Danny.
Bonsoir, comment ça va?
Ça va bien, Danny? Te restes-tu du gaz un peu?
Pas beaucoup, Mario. Je veux te dire, avec toi, j'ai mal à la gorge. Mais ça valait la peine.
Écoute, avec cette voix-là, tu pourrais faire un rôle dans un film Goodfellas ou quelque chose dans le genre, là, un petit peu de rock dans la voix, mais ça valait la peine très certainement. De quoi es-tu le plus fier, Danny?
Je dirais le fait qu'on était capable de trouver du monde qui voulait embarquer dans beau projet qu'on a présenté au tout début de l'année, en sachant que on a avec ce projet-là, c'est sûr qu'on avait quelques défis à vivre pendant la saison morte, puis même pendant le camp d'entraînement, puis la saison. Puis on savait qu'il y avait des ajustements à faire. Je pense que c'était pendant la deuxième moitié de la saison quand on a embauché Lemon puis Sankey. Puis ça a donné ça a amené une certaine attitude sur le côté défensif qui était vraiment contagieux, qui a aidé les performances qu'on a eues sur le côté défensif. Puis le fait que tout le monde croyait en particulier les deux derniers mois, je sentais un vestiaire qui était convaincu qu'il pouvait livrer la marchandise, même dans des circonstances pas tout à fait idéal.
Quand tu décides d'embaucher Jason Moss, bon, tu sais, veux pas, toute la presse était sceptique sur pas mal tout ce qui concernait les Alouettes. Ça n'a pas été facile ces dernières années. Tu amènes un coach anglophone, mais tu le connaissais bien, puis il y avait plein de francophones autour, dont toi comme directeur général. Fait que, tu sais, je pense qu'il était bien encadré. En plus, il a démontré une sensibilité au fait français à travers ses quiz au sein du groupe pour s'imprégner de la culture québécoise. Mais il reste que qu'est-ce qui t'a le plus... est-ce que tu as vu la meilleure version du Jason que tu connaissais, puis comment tu le fais la différence?
Non, absolument, puis il ne faut pas oublier non plus que c'est quelqu'un que je connais.
Que tu connaissais bien.
Depuis une vingtaine d'années, j'ai eu la chance de le coacher pendant plusieurs années. Je l'ai regardé comment il a évolué dans le domaine du coaching. J'ai regardé son succès à Toronto quand il a gagné la Coupe Grey comme assistant coach. Les quatre receveurs qu'il y avait à Ottawa comme prédateur à l'attaque, qui ont accumulé 1000 verges chaque. Puis je l'ai aussi connu les deux dernières années à Saskatchewan quand c'était un petit peu plus difficile. Alors ça, c'était toutes des expériences qui peuvent seulement aider dans l'apprentissage d'être un entraîneur en chef, je donne l'exemple. Puis quand j'étais en train de bâtir ou quand je regardais ce beau projet-là, c'est sûr que c'est pas un projet qui est fait pour tout le monde, mais je pensais que ça serait idéal pour quelqu'un comme lui, si ça lui tentait d'embarquer. Puis, écoute,
qu'est-ce qui n'était pas fait pour tout le monde, Danny? Excuse-moi de t'interrompre. Qu'est-ce que tu considérais qui n'était pas fait pour tout le monde ici?
Ben, c'est parce que, Mario, on n'avait pas de propriétaire, là, on n'avait pas de président, on n'avait pas de carrière. C'était pas un dossier facile. Écoute, il n'y en avait pas une tonne qui m'appelait et qui me disait, écoute, ça me tente vraiment d'être ton entraîneur en chef l'année prochaine. On avait quelques candidats à l'interne, mais comme j'ai dit, c'était quelqu'un que moi, je pensais que c'était la personne idéale pour l'amener à un niveau qu'on souhaitait puis il a livré la marchandise.
Puis quand il arrive là, puis qu'il est devant, j'imagine quand tu, bon, il savait qu'il avait des bonnes chances d'avoir la job, mais tu as interviewé d'autres candidats. Mais quand il est devant son plan du Great Eight, je viens de lui en parler en entrevue. Là, lui, il arrive, il dit, hey, on va gagner à Cookbury, on va gagner. Alors que toi, là, tu te demandes si le chèque va rentrer dans deux semaines, si un propriétaire, oui. tu dis, wow, Jason, où t'as aimé ça, qui pense à ça, lui-là, qui te pitch ça, dit, hey, nous autres, on va gagner à Cookbury cette année. Donc, t'as perdu Eugene Lewis, pas grave, perdu Trevor Harris, je sais pas c'est qui le proprio. Great Eight, on gagne la coupe.
Mais c'est intéressant que la façon que tu te présentes, Mario, la réalité, c'est que lui, même quand Geno Lewis est parti, puis Trevor Harris n'était plus là, puis Winicky sont partis, et il n'a jamais paniqué. Il a dit, ben, on va coacher les joueurs qui veulent faire partie des Alouettes, l'édition des 23 des Alouettes. Celui-là qui veut vivre dans ce vestiaire, celui-là qui veut jouer à Montréal. Ça, c'est les joueurs qui m'intéressent de coacher. Puis justement, quand j'ai présenté tous les recrues que on avait signé des SNIC puis des MAC, il a fait ses recherches. Alors, il était excité d'avoir des bons jeunes joueurs, comme Spico aussi. Puis il a dit, on peut bâtir autour de ces jeunes joueurs, puis on peut, je pense qu'on peut faire du chemin avec eux. Puis il était assez confiant dans ses moyens que il a dit, écoute, moi, ça c'est un genre de défi que je cherchais, et je pense que je peux livrer avec des bons assistants coach, puis qu'il a engagé, puis on voit les résultats aujourd'hui.
Ah, élevez la main tout le monde à l'écoute, là, via la messagerie texte 98985. Qui connaissait Cole Speaker hier à 7h? Hein, Danny, je suis sûr qu'il y a des gars dans ton club qui ne connaissaient pas plus qu'il faut non plus, non, mais on jase, là.
Mais écoute, il a joué quelques matchs pour nous l'année passée. Cette année, je pense qu'il a joué plus que trois quarts des matchs. L'autre quart, il était sur le practice roster, mais c'est un jeune qu'on a trouvé à Dallas pendant quand on a eu des camps de joueurs autonomes. Puis, écoute, hier, c'est sûr qu'il a livré tant dans ce fameux match, sur le troisième essai, puis cinq verges.
Écoute, tu sais, je le disais à la blague un peu, mais je trouve qu'il y a quand même eu, tu sais, on a parlé, j'ai parlé de toi comme l'architecte, mais il y a eu des prises, tu l'as souligné, tu sais, d'amener Sankey, d'amener Austin Mack, tu sais, pour vrai, là, c'est tout un joueur de football, puis c'est le fun de le voir comme un gars qui connaissait comme pas grand-chose la Ligue canadienne, de voir comment il était vraiment dans ses émotions de vivre hier, là, il aurait pas voulu être nulle part ailleurs, sa planète, fait quand tu parles du sentiment de venir, de vouloir venir à Montréal, je les nommerai pas tous, mais au niveau du recrutement, je sais pas si c'est toi qui les as tous recrutés, dépistés personnellement, ou tu as des méchants bons recruteurs, mais les morceaux de puzzle que tu as ajoutés en saison, je sais pas si on vit ça hier sans ces morceaux-là. J'ai envie de penser que je pense pas, là, mais on sait jamais. Là.
Non, t'as complètement d'accord, raison. Mario, écoute, on parle de Mac, puis on parle de Sneed, mais il faut pas oublier non plus Ento. Il faut pas
quelle interception hier!
Exactement. Stubblefield, on peut pas oublier Stubblefield.
Le sac du corps.
Exactement, long choix de dépêchage et dernières années, en particulier celui-là qui jouait comme joueur de ligne défensive, Ouguat, qui a joué tout un match aussi. Alors, écoute, il y avait déjà une fondation en place avec le travail qu'on a fait les trois dernières années. Là, on a ajouté d'autres pièces à qu'est-ce qu'on avait déjà en place. Puis ça, c'est le travail de tous nos dépisteurs, que ce soit Éric Delaurier, Jean-Marc Edmé, Pierre-Yves Laverne, Byron Archambault, pendant la saison morte. Puis c'est sûr que notre réseau de contact qu'on a aux États-Unis qui nous donne un coup de main de temps en temps. Alors, on est incapable de les identifier, puis après, il faut les recruter pour les amener à Montréal. Puis on était capable de le faire. Puis là, avec ce résultat, ça va être même plus facile de convaincre des joueurs qui ont joué un ou deux ou trois ans dans la NFL, de les convaincre de venir dans la Ligue canadienne, puis en particulier à Montréal.
C'est quand la première fois que tu as rêvé de gagner la Coupe Grey, avant même d'être en position de le faire, là? Écoute, Danny, on parlait de ça, là, bien avant que tu reviennes à Montréal. C'est-à-dire que, tu sais, bien avant, tu étais avec les Carabins, mais ça fait longtemps que tu rêves à ça, là. Là, c'est fait. C'est quoi le sentiment qui t'habite maintenant que c'est réalisé?
Oui, pour moi, c'est énorme. Parce que tu le sais, Mario, moi, j'ai eu la chance, puis j'étais assez chanceux d'avoir gagné, que ce soit avec les Carabins, que ce soit avec Edmonton, que ce soit avec l'équipe du Québec, l'équipe Canada, en Italie. La seule place que j'avais pas gagné en championnat, c'était avec les Alouettes quand on a perdu en 2000 contre le Lion de BC. Alors, pour moi, de gagner un championnat dans ma ville natale, c'était une priorité pour moi dans mon cas. Je voulais trouver une façon de gagner ce fameux championnat-là avant de mettre fin à ma carrière. Alors, le fait qu'on était capable de le faire, qu'on l'a fait hier, c'est sûr que c'est une grande satisfaction. Puis c'est sûr que là, je cherche d'autres défis avec cette organisation. Je suis sûr qu'on va en avoir dans les prochaines années. Puis si jamais on peut aller chercher cette stabilité qu'on a déjà en place et de mettre un produit gagnant sur le terrain chaque année, mais on peut vraiment avoir du fun dans les prochaines années.
Devenir une puissance?
Non, mais c'est ça. Je pense que je l'ai déjà mentionné au bureau. J'ai dit qu'est-ce que j'aimerais être, c'est la référence dans la Ligue canadienne un jour. Puis la seule façon qu'on va l'être, c'est de gagner des matchs et de gagner des championnats. Mais alors, on a eu du succès cette année. Là, est-ce qu'on peut garder cette constance pendant les prochaines années?
Qu'est-ce que tu as pensé des sélections de jeux sur les derniers jeux de la dernière séquence? Je capotais.
Ben écoute, c'est sûr que c'était 3-5, puis on avait Speaker comme receveur éloigné, puis on avait Sneed, puis Mac comme receveur inséré. Le demi-coin qui était en couverture contre Speaker gardait Mac puis Sneed parce qu'il était convaincu que le ballon s'en allait vers eux, puis justement c'était le cas. Mais Speaker, il est parti. Puis le demi-coin a décidé de ne pas le couvrir. Puis là, Cody a vu que le demi-coin était en train de tricher sur les tracés de Mac puis de Snake. Puis il a décidé de lancer le ballon au Speaker. Puis on était capable de le compléter jusqu'à la ligne de 20. Puis on sait ce qui s'est produit avec le prochain jeu.
Incroyable. As-tu vécu un moment magique en terminant, Danny, là, depuis le moment où la victoire a été assurée? As-tu vécu quelque chose, soit dans l'intimité du vestiaire, soit avec un complice, avec Jason? Quel a été le moment le plus fort que tu as vécu une fois la victoire acquise?
Ben, je dirais même pas la journée même. Je dirais la veille, quand tous les vétérans qui ont vécu des Coupes Grey, ils se sont élevés, puis ils ont fait un discours, puis celui-là qui nous a vraiment touché, c'était celui-là de Cody Fajardo. Et c'était tellement passionné que, écoute, il y avait des larmes dans les yeux de plusieurs joueurs, puis dirigeants, puis là, je savais qu'on avait quelque chose de spécial, d'unique entre nos mains, puis il n'y avait pas grand-chose qui pouvait les arrêter. Je sentais assez confiant que durant 60 minutes, on va trouver une façon d'aller chercher ce fameux championnat.
Es-tu allé te chercher toi aussi, Cody, dans ce discours? Parce qu'écoute, là, ça fait quelques joueurs qui nous en parlent, puis ça semble être unanime. Là. Il a vraiment créé quelque chose. Là.
Mario, écoute, ça fait 27 ans que je suis dans ce domaine, puis j'en ai entendu du discours à la fête de son discours quand il a laissé l'équipe. J'avais besoin de quitter pour quelques minutes parce que c'était vraiment touchant comment il a adressé l'équipe.
Wow. Ouais. Ah, il y a de quoi être fier, Danny. Écoute, t'allais-tu rajouter quelque chose, excuse?
Non, j'ai dit, c'était vraiment magique, qu'est-ce qu'on a vécu.
Vraiment, vraiment. Écoute, pour un gars qui avait plus bien de gaz, moi, je trouve que tu commences à reprendre l'énergie, mais on te laisse aller te reposer, Danny. Merci beaucoup. C'était génial. Merci d'avoir veillé.
Merci,
bonne soirée. Bravo, Danny, merci beaucoup. On s'en va-t-il à la pause sur notre petit montage? Je pense qu'on est dû pour se remonter un peu, pas qu'on est down, pas pantoute, au contraire, on est en pleine forme, mais question de se remettre dans l'état d'esprit qui nous animait hier, avec moins d'une minute à faire, alors qu'on aurait pu se contenter d'un mot juste de bon match qui allait nous laisser un peu sur notre appétit, mais Cody Fajardo avait pas juste un bon discours à livrer, il y avait encore une couple de solides passes à décocher pour la victoire, et on revient avec Mark Whiteman, le président.
C'est le jeu du match. Fajardo recule. La passe pour Speaker. C'est capté! Premier essai à la ligne de 20. Les Alouettes avec 32
j'attends pas de crever. J'lâche pas, moi c'est où je m'en vais.
Fajardo recule, chef, la passe dans la zone des buts, touché!
Wow!
Tyson! Philpott!
Wow! Tyson Philpott, le joueur de deuxième année, les Alouettes, réussit le jeu le plus important de sa carrière avec 11 secondes à faire au match. Marque un touché sur une passe de Cody Fajardo en plein centre du terrain. Qui l'eût cru? Les Alouettes de Montréal prennent les devants avec 11 secondes à jouer.
Intervention de Saint-Gertrude encore une fois. Colarose, la passe dans le milieu du terrain. On y va d'un côté, de l'autre côté. Les Alouettes n'ont qu'à se jeter au sol. C'est terminé! Les Alouettes sont champions de la Coupe Grey 2023!
Qui l'aurait cru, Jean?
Cogeco. Vous écoutez les amateurs de sport.
Touché!
Pour les fidèles du sport.
C'est l'entraîneur-chef des Alouettes de Montréal qui a pu soulever hier la Coupe Grey au-dessus de ses bras. Hi Jason, how are you? And mainly congrats for the amazing win yesterday night. How do you feel tonight?
I feel great. It's barely sinking in now what we accomplished. I catch myself here and there just reminiscing, and it's bringing a huge smile to my face every time.
Un grand sourire sur le visage de Jason qui commence juste à réaliser ce qui s'est passé hier. I remember you, Jason, coming with Danny in our studios, meeting us, meeting all the medias in a kind of a tourney around the city when you came in. And probably, if you reminded that the faces that you were seeing then, you saw a lot of the skeptical people. Is it a clear image in your face of that moment when you came in?
Well, I think everyone kind of understood that what we were going through at that time in the off season. The free agent signings weren't quite going the way people expected them to go. And the ownership issues and all those things. And we had a plan and we stuck to that plan and we were excited about the plan. I think people started to realize that probably mid-season, where we started to realize it right away in training camp. But you just use that as motivation more than anything.
And when I say skeptical, I don't mean just about you, but about the old story of the Alouettes, because it was kind of beginning to look like the Greyhound day. Some difficulties after difficulties after difficulties, inserted some uncertainty about the ownership and everything. And here we are. That's a pretty good movie, eh? If you watch that on the big screen, don't you think so?
Oh, absolutely. I think if you did a good job of documenting everything that went on, for sure through Danny's course of being a GM since he's been here. But if you just started that story, in December and started to talk about everything that transpired from that moment on, I think you'd have a hell of a story to write, and it'd probably be fit for the big screen.
Jason Moss qui nous dit qu'effectivement, si on prenait tous les petits détails là, qui ont meublé le quotidien de l'environnement de l'équipe depuis décembre dernier, depuis qu'il est arrivé, la question de propriétaire, il dit effectivement, ça ferait un très bon scénario pour le grand écran. Quel est l'élément qui va chercher le plus de fierté en lui? C'est la prochaine question que je vais lui poser. Jason, Coach Moss, what brings you the most pride in not only the win, but the behavior of your group?
That's exactly it. You said it right. Just the behavior of our group, the way they handled themselves through the whole season. Great Cup week. You know, guys were just locked in and focused. You know, I really enjoyed going to work every single day. I think our coaches did. The players, you know, every time we talked about coming to the building, enjoying yourselves and having fun. But when it was time to work, it was time to work. And we very much were very specific on one aspect this year, was playing for someone other than yourself. And that's what I saw. I saw a selfless group of guys that cared about one another and played for each other. And that's what makes you proud. When you look back and you see the game that we played and the biggest game of the year that we played in and go out and win it together, and you see that locker room after, and you see everybody celebrating together, that's what it's all about. And that's when you build something special. And that's what I'm most proud of. I'm most proud of the way the group came together more than anything on that field.
La plus grande fierté de Jason Moss, c'est de voir comment ce groupe-là est venu s'est rassemblé ensemble, leur permettre de jouer ça. C'est pour ça qu'il a insisté sur le fait qu'il avait aimé qu'on utilise le mot behavior, le comportement des joueurs qui a été exemplaire. Et il dit aussi qu'il y avait un plan, si je reviens à la question précédente que je n'avais pas traduit complètement, c'est qu'il y avait un plan au début de l'année. You did have a plan and you did introduce that plan to the players and to Danny and everybody, and I think that was called the Great Eight. You were looking for the eight Grey Cup in the Alouettes history, and so you had it in mind from scratch, from the start, really.
Yeah, I mean, you know, before I was hired, or when I was talking to Danny being interviewed, and we kind of were going through everything, and once you get hired, you start thinking about the ways you're going to talk to the team in your first team meeting, and you know what's going to be the driving force behind what you're preaching. You know, you're obviously wanting to play a certain way, you want them to do certain things. But you want them to think about something, and to me, think about it every single day. And so when we came up with that Grade 8 logo and talked about the Grade 8, that what it stood for and what it meant, you know, to win that 8th Grade Cup was going to be special, and we had to be great to do that. And how do you get to be great? Well, you got to have ability, toughness, and effort in every single day and every single facet that you do. And, you know, that was something we felt was measurable. We felt we could look at guys and see that in them, you know, and there were a lot of other factors that went into that. But, you know, we talked about 23, putting 23 up on that. And we did it all year. It was never our focus. Our focus was always on working and getting better, you know, and doing the daily tasks that needed to be done. But man, you wanted people to get excited about putting 23 up on that wall. And that's where it all came from. And, you know, it was just a tangible goal, I felt, you know, if the guys would come together and believe, and they sure as hell did that.
Jason qui nous explique que le Great Eight, le concept qu'il a vendu à ses joueurs, c'est que oui, je vais motiver une équipe, mais ça prend quelque chose de plus grand que le quotidien. Ça prenait un grand objectif. Il considérait que c'était un objectif de gagner une 8e Coupe Grey dans l'histoire des Alouettes, que c'était quelque chose de réalisable. Alors, c'est vraiment autour de ça qu'il a travaillé pendant toute l'année, jusqu'à en savourer le résultat hier. Do we have, and I think that's probably the case for most human growing up. I think we get better at a lot of things, but what is it in the best version of a head coach that you are now that we have, that we beneficiate from here in Montreal, in you, Jason, in 2023?
Yeah, I mean, I think, you know, you learn along the way, you appreciate things differently, you express yourself differently, you learn there's different ways of motivating people. You know, obviously X's and O's come and go, and you learn, you know, from trial and error at times, and you learn different schemes, and you're able to delegate and listen and you know, bring people together. And I just think over the course of time, you just get, if you have awareness of trying to become better, you know, you can. And, you know, emotion is part of that. And I've talked about it, and people know it. You know, that was something I thought I needed to control, my discipline on the sidelines and how I reacted to things so that we had a more disciplined football team. And that was very important to me. And I felt like that was a step we needed to take. And I was willing to take the first step. So, but that just comes with time. And it comes with some understanding and some self-awareness. Mm-hmm. I think it helped me out greatly. And if I was, if I believed that it would help our team, I would do it. And I firmly believe our discipline this year was fantastic. We were one of the least penalized teams in the league. And we also, the little things that we care about, I thought we did very well.
Very well. We have about 20 seconds left. What did it represent to experience that with your son on the sideline yesterday night?
Oh, man. I mean, that was tremendous. We were away from our families quite a bit as coaches during the season. So anytime I get to spend with him is special, extra special. And to live a moment like that with him, I'll never forget it. And it brings that, you talk about smile on your face, that brings the biggest one to me.
Congrats, Jason. Thank you. You're Grey Cup champion. Thank you very much. Merci beaucoup.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
C'est 23.